Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue dans le Café des Sports de Radio Foot International sur RFI, bien entendu, et avec nos invités du jour, avec le duo irremplaçable et fidèle au rendez-vous, Rémi Ngono et Xavier Barré. Bonjour messieurs.
Bonjour Annie.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez abandonné le soleil, là vous nous faites le plaisir de passer dans le studio quelques instants. Il y a aussi Hervé Penaud pour arbitrer un peu tout cela, notre ami de l'équipe, bonjour.
Ah bonjour à tout le monde, quel plaisir d'être avec vous, il fallait quand même un homme de poids,
hein, n'est-ce pas,
pour essayer d'arbitrer ce duel.
Parce que des fois c'est chaud.
Nos amis, je les connais, voilà, terrible. Ouais, je suis avec mes gants, attention.
Parfois il jette un peu d'huile sur le feu aussi, Hervé.
Mais j'ai quand même vu comment est-ce que Xavier Barré était déjà en train de te donner du café.
Ah absolument.
C'est une marque de corruption.
D'une certaine manière, je dois l'admettre.
Ça s'appelle comme ça, effectivement. Oui. Et puis il y a le réfé impérial, toujours un peu distant, arbitre de tout cela. Bonjour Alejandro.
Oui, voilà, au-dessus de la mêlée.
Au-dessus de la mêlée. Alors, dans les débats du jour, la France, première au classement FIFA, les champions du monde et leurs adversaires malheureux gagnent des places dans l'échelle FIFA. Et la Croatie est quatrième, alors que les champions du monde de 2014, les Allemands, dégringolent à la 15e place. Les équipes africaines pointent toujours loin du top 10 ou du top 20. Tunisie et Sénégal sont 24e ex aequo, les meilleurs au bénéfice évidemment de leur victoire en Russie durant les matchs de poule. Voilà donc les deux premières équipes africaines. Ce classement réalisé selon une nouvelle méthode qui nous semble mieux refléter la réalité. Est-ce votre avis? Nous le verrons ensemble. Chelsea-Arsenal en Premier League ce week-end est déjà l'entraîneur des Gunners sur le grill. Non, ce n'est plus Arsène Wenger, monsieur Rémi Ngono. Ce n'est plus Arsène, mais son successeur Unai Emery qui doit tenter de prendre le relais 22 ans après. Et on voit que ce n'est pas simple. En France, il y aura cette rencontre de Marseille qui se rendra à Nîmes. Donc un Nîmes-Marseille, les crocos contre l'OM, toujours pas de grand attaquant. En un seul mot, comme on écrit dans la presse en ce moment pour l'équipe de Rudy Garcia. Mais elle marque beaucoup de buts et les Nîmois aussi. La Liga aux États-Unis, mais oui, le Real ou le Barça iront jouer aux États-Unis en terre américaine cette année pour une journée de championnat loin de l'Europe. Donc tout pour ça, pour de l'argent évidemment, mais la décision ne fait pas que des heureux et nous y viendrons. Et puis notre session carton, nous serons rejoints par les stagiaires du service des sports, Samy Mouafik et Louis Fargue. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts.
On est champions, nous! On est champions!
Merci!
Merci!
We are the champions, my friend! We keep on fighting to the end!
J'ai entendu dire que on était champions du monde, c'est vrai ça? Pour la fois, c'était plus. Pour la fois, c'était plus.
Et oui, on vous le dit bien sûr, ils sont champions du monde. Mais surtout, voilà la France, première au classement FIFA. Les Bleus ont grimpé de 7 places à la faveur de leur titre, bien sûr, de leur trophée doré. Et ils se retrouvent premiers pour la première fois depuis 2002. Cela faisait donc bien longtemps. C'était encore du temps de Zidane 2002. Les finalistes croates font aussi un bond pour se retrouver à la 4e place de ce classement FIFA, alors que les champions du monde de 2014, éliminés, vous vous en souvenez, dès les 8e de finale, les Allemands, pour eux, la dégringolade est sévère. Ils perdent 14 places et se retrouve donc 15e de ce classement. D'une façon générale, ceux qui sont allés loin en Russie sont dans le top 10, alors que les premiers Africains, eux, pointent après le top 20, c'est-à-dire 24e place, je le disais tout à l'heure, ex aequo Tunisie et Sénégal. Ce classement, nouvelle formule, on va en parler de la formule ensuite de calcul, mais est-ce que déjà ce classement...
Ça va être une émission de mathématiques, Annie. Alors.
Un peu. Est-ce que ce classement reflète la santé des équipes nationales actuelles? Et je pose la question parce que souvent, quand il y avait ce classement, on se gossait un peu, on raillait un peu le mode de calcul ancien. Est-ce que là, pour l'instant, selon vous, ce classement publié hier est une bonne image de la valeur des sélections actuelles?
Si je me souviens bien, le champion du monde était premier chaque fois après la Coupe du Monde. Hein, donc voilà. Après, c'est ce qui se passe, c'est dans les périodes intermédiaires. Effectivement, comme il n'y a que des matchs amicaux ou des matchs avec contre des adversaires qui n'ont pas forcément la même valeur, eh bien le
même
fait...
Même après l'Euro, on n'avait jamais vu la France deuxième, par exemple.
Oui, mais par exemple, le classement FIFA et le classement UEFA déjà sont différents. Mmh. Donc on voit qu'effectivement, les modes de calcul influent beaucoup. La nouvelle formule, a priori, est plus satisfaisante parce qu'elle tient compte, justement, de la valeur de l'adversaire. Et donc, va donner plus de points...
Justement, on va y venir sur les détails de comment on calculait avant et après. Mais ce qu'on trouvait auparavant, c'est que finalement, ça ne donnait pas une bonne image de la valeur. On se souvient qu'il y avait la Suisse, la Belgique. Avant la Coupe du Monde, il y avait la Pologne. Et la Pologne, son premier match, se fait battre par le Sénégal.
Non, mais c'est le classement FIFA. Alors, je ne vais pas dire était ridicule parce que c'est un peu excessif, évidemment. Mais ça faisait sourire.
Voilà, ça
faisait sourire.
Plus à rien.
Quand vous voyez la Belgique qui n'avait jamais rien fait, qui se retrouvait meilleure équipe du monde, ça n'a pas de sens. Ça n'avait aucun sens. Il fallait revenir sur ce mode de classement, ce mode de désignation, parce que ça ne voulait plus rien dire. Ça ne voulait plus rien dire, mais ça avait un sens énorme et un poids immense, puisque ça permettait d'avoir dans les chapeaux, dans les différents chapeaux, être dans les chapeaux 1, dans les chapeaux 2, et vous vous retrouvez parfois avec des sélections qui n'ont rien à faire là. La Pologne, par exemple, on en a parlé, qu'est-ce qu'ils ont fait la Pologne?
Oui, mais non, mais même, tu dis, la Pologne est éliminée au premier tour, je suis d'accord, mais l'Allemagne aussi. Et l'Allemagne aussi était tête de série, tu vois ce que je veux dire?
Ah oui, mais l'Allemagne, elle méritait d'être tête de série pour ce qu'elle avait fait avant.
Mais non, mais justement, le propre du classement FIFA, c'est un peu comme le classement ATP en tennis, c'est de prendre un certain nombre de résultats sur une période donnée. En général, une période de 4 ans.
Allons-y.
Donc aujourd'hui, la
Comment
Hongrie, elle a peut-être été en finale de Coupe du Monde, mais elle vaut plus rien. Donc normalement, elle est au-delà de la 50e place.
Oui, mais c'est pour ça que c'était pas du tout logique que la Belgique, qui n'avait rien fait du tout, que ce soit dans des euros ou des Coupes du Monde,
ou
la Suisse à un moment dans les top 10, ça n'avait aucun sens, puisqu'il n'avait jamais allé loin dans n'importe quelle compétition. On se souvient que les Belges avaient été éliminés même au Brésil beaucoup trop tôt, à leur goût. Ça ne leur permettait pas d'être la meilleure équipe du monde. Ça ne pouvait pas leur permettre d'être la meilleure.
Mais si vous voulez, c'était purement mathématique.
On était perdu dans les maths.
Quand on veut classer des nations qui évoluent sur des continents et sur des compétitions différentes, on va toujours avoir de la polémique parce que quelle que soit la méthode, on va la FIFA a eu le mérite de faire des choix qui sont bien différents de ceux qu'on appliquait avant. Par exemple, avant, on voulait éviter les mouvements trop brusques à la suite d'une compétition, donc on faisait des moyens sur 2 ans qui atténuaient un peu l'impact des certains résultats.
Qu'on ne comprenait pas tout.
Avant aussi, on donnait une valeur différente, par exemple, aux compétitions continentales. Par exemple, l'Euro ou la Copa América avaient davantage de poids que la CAN, par exemple. Aujourd'hui, on va mettre toutes ces compétitions un peu à égalité.
Et c'est très important, c'est un point quand même capital, parce qu'il faut bien se rendre compte que déjà les équipes africaines jouent assez peu contre les équipes européennes ou sud-américaines, même très peu.
Très rarement.
Sauf dans les périodes de Coupe du Monde, où là on dit tiens, on va faire quelques matchs amicaux. Mais avec l'histoire de la Ligue des Champions, ou je sais pas comment ça s'appelle, la nouvelle Ligue des Nations.
Bah, qui va être diffusée sur l'équipe, tu devrais le savoir.
Ah non, mais parce que j'ai pas le nom exact. Mais la Ligue des Nations, à voir, à suivre sur l'équipe. Mais cette Ligue des Nations, évidemment, va obliger les équipes européennes à jouer entre elles à toutes les périodes internationales, ce qui est plus ou moins le cas. Donc ça veut dire que les équipes africaines qui auraient pu parfois s'immiscer qualification Coupe du Monde et qualification CAN dans ces interstices pour avoir aussi la possibilité de rencontrer les équipes européennes, sud-américaines, asiatiques, et ben finalement aujourd'hui
c'est-à-dire
des points au moins.
Du coup on favorise les équipes africaines.
C'est pas tout à fait exact ce que tu dis, Hervé, pour une raison très simple, c'est que cette Ligue des Nations vient en complément des éliminatoires de l'Euro 2020. En fait, c'est une espèce de première phase éliminatoire.
C'est les seuls moments où tu pouvais jouer.
Non, il reste des dates possibles pour des matchs amicaux. Et d'ailleurs, l'équipe de France va en faire jouer un contre l'Islande. Je disais tout à l'heure que l'Allemagne va jouer contre la Russie, effectivement. Donc ils vont jouer entre
Européens.
Mais
n'oublie pas qu'il y a interdiction. Il y a interdiction de changer de continent, d'avoir tant d'heures d'avion, 4, 5 ou 6 heures d'avion entre deux matchs. Donc ça veut dire que ça ne donne pas la possibilité à certaines équipes de jouer contre des équipes européennes. J'ai connu des équipes africaines qui n'avaient pas pu jouer contre des équipes européennes parce que justement, ça dépend dépasser ce cadre. Exact. Alors je ne sais plus combien c'est 4 ou 5 heures d'avion pour aller, pour se rendre quelque part.
Oui, il y a aussi une autre réalité qu'il n'y a pas le droit, il n'y a pas l'obligation pour les clubs.
Mais là, on s'éloigne du classement FIFA quand même, parce qu'on est en train de parler d'autre chose. Quand même, on remarque que les équipes africaines sont favorisées à terme par ce système. Mais du coup, d'autres pourront se dire « Ah, mais finalement, est-ce que les niveaux de la CAN est comparable à celui de l'Euro, etc. ?» Donc, tout ça, ça va prêter à discussion. Et de toute façon, ça va être progressif, car on part du classement du mois de juin. C'est-à-dire que les équipes, que ce nouveau classement est établi à partir de celui qui existait avant, et on le corrige au fur et à mesure, à chaque mois, en ajoutant les résultats des différentes compétitions. Donc, on va voir des effets beaucoup plus importants dans quelques mois.
Je comprends justement le raisonnement de quelqu'un qui a un sang argentin qui coule dans ses veines et qui trouve que...
Ah non, je critique pas.
Attendez, mais attends, Alejandro, qui est favorisé? Les équipes africaines n'ont rien à foutre parce que justement, elles ne sont pas favorisées. Moi, je peux vous dire par exemple que c'est l'Argentine qui a été les pays d'Amérique du Sud qui ont toujours été favorisés et qui continuent à être favorisés. Je te prends un exemple. Quand l'Argentine se qualifie pour la Coupe du Monde, l'Argentine passe presque par le trou de souris. Et l'Argentine est quantième. L'Argentine, au classement FIFA, est cinquième. Le Nigeria, qui se qualifie comme le premier représentant africain à la Coupe du Monde, est classé 40e, 47e. Et on voit, en ce temps, le Nigeria a rencontré en match amical la même Argentine. Le Nigeria bat l'Argentine, mais l'Argentine est toujours devant. Et on arrive en compétition de Coupe du Monde. Et tout le monde sait que s'il n'y avait pas eu l'arbitre, le Nigeria serait passé. Et on se retrouve à quoi aujourd'hui?
Là, le Nigeria... Je suis pas d'accord, hein.
Non, attendez. Lorsqu'on se retrouve aujourd'hui, vous avez vu entre le niveau du Nigeria et celui de l'Argentine. Il n'y a pas vraiment une grosse différence. Quand on essaie de regarder tout ça et tout et tout et tout, ils sont passés par un trou de souris à passer avec ce pénalty qu'on a refusé et tout et tout et tout. C'est pour ça que je dis ça. Donc, comme j'ai dit aujourd'hui, moi, je suis quand même surpris de constater que pendant la Coupe du Monde, le Portugal était quatrième, c'est-à-dire qu'au classement FIFA, le Portugal se retrouve contre le Maroc, qui est 42e au classement FIFA. Mais on a vu comment est-ce que le Portugal a été totalement broyé, menacé par cette équipe du Maroc. On
a vu l'Espagne. C'est pas le niveau qu'on note, c'est le résultat, malheureusement.
Je vais donc vous dire que par rapport à certains résultats, ils ont fait un match nul contre l'Espagne. Mais qu'à cela ne tienne, l'Espagne est très loin devant. Mais on a bien vu le Maroc contre l'Espagne.
Parce que vous parlez.
Voilà.
Mais justement, Rémi,
c'est qualifié pour être éliminé un match après. Donc s'il s'agit d'un match, un match donne à tel 2000 points. À un match ou bien une défaite donne à tel autre moins 5000 points, j'ai dit, je ne suis pas d'accord de toute façon. Un proverbe africain est clair, l'enfant de l'orphelin mangera toujours l'os.
Non mais Rémi, vous êtes complètement à tort, parce que en fait, les nouveaux classements FIFA prévoient justement qu'une équipe des niveaux inférieurs, quand elle affronte une équipe des niveaux supérieurs, en cas de résultats positifs de l'équipe inférieure, elle sera davantage récompensée que dans le cas inverse. Donc aujourd'hui, la FIFA a corrigé un certain nombre d'anomalies qui vont avoir comme conséquence qu'on va avoir des classements beaucoup plus mélangés.
Et le Nigeria, il ne faut pas oublier une chose sur le Nigeria dont tu parlais.
C'est le début, attention.
Non, c'est déjà le début. Et puis le Nigeria dont on parlait, il fallait se baser sur une période donnée qui était en gros 2 ans. Hein, et le Nigeria avait raté aussi la Coupe d'Afrique des Nations. On va l'oublier. Donc quand vous êtes éliminé, mais à un moment, il faut bien se baser sur quelque chose pour donner un classement. Tu ne peux pas dire, à mon avis, le Nigeria va poser des problèmes à l'Argentine, donc on va les classer au-dessus de l'Argentine.
Bon, attends, je vais te poser un problème. Si tu le dis, le Sénégal, certes, aujourd'hui, à une certaine période, pour aller à la Coupe du Monde, d'ailleurs, moi, je me rends compte que le Sénégal, quand même, est battu en finale de la Coupe d'Afrique des Nations par le Cameroun. Mais quand on essaie de regarder le classement du Sénégal à la
finale,
quand on essaie de regarder maintenant, non, même
mais je crois que là les téléspectateurs, je crois que les auditeurs ont décroché parce que même moi j'arrive plus à le suivre.
Rémi, même le classement du 18 août,
voilà. Je vais le remettre sur les rails.
Le classement du 18 août, on perd nos auditeurs. J'ai dit le classement du 18 août. On a vu la prestation.
On parlait d'une finale entre le Sénégal et le Cameroun.
Le Sénégal était à la Coupe du Monde, oui ou non? Quelles étaient les prestations du Sénégal?
Le Sénégal est 24e parce qu'ils ont eu une victoire comme la Tunisie et se retrouvent les premières équipes africaines classées, Rémi.
Ah, donc rien que pour une victoire, c'est pour ça que le Sénégal donc se retrouve au même plan que la Tunisie. Et pendant ce temps, les autres qui ont eu le Maroc 45e et
le Nigeria est 49e et l'Égypte qui a marqué 0 points, elle est 65e.
Mais il est logique aussi qu'à un moment, si tu as une victoire, ça te rapporte des points. Ça n'a pas de sens. Si tu estimes que l'Égypte, par exemple, qui a fait une Coupe du Monde désastreuse, elle mérite autant de points que le Sénégal qui a gagné un match et ça s'est joué à peu de choses pour une qualification, il faut bien qu'à un moment, un mode de calcul. Et le mode de calcul, il se désigne comment? Sur le nombre de victoires, le nombre de points pris.
Rémi n'est pas d'accord.
Il faut donc regarder le positionnement, le classement des équipes européennes qui n'ont pas gagné. Est-ce que la Pologne aujourd'hui est centième au classement FIFA? Est-ce que la Pologne est centième? La Pologne, cependant, a été battue par une équipe africaine. Quel est le classement?
Je vous ai expliqué qu'on partait du classement du mois de juin. Donc l'évolution va être progressive. Évidemment, la Pologne ou l'Allemagne qui étaient très bien classées, ont perdu des points.
Elle a perdu 10 places, la Pologne, Rémi, c'est beaucoup.
Et l'Allemagne, elle a reculé de 14 places.
Bah oui, c'est celle qui, pour moi, est tout à fait logique.
Donc, il n'y a rien à dire. Ils étaient champions du monde, ils sont éliminés dès le premier tour.
Infantino, qui avait tenu à cette réforme, on va dire, parce qu'il savait que quand même il y avait quelques moqueries, quelques railleries, a dit nous avons amendé un petit peu le calcul. Est-ce que c'est un petit peu, Xavier?
Oui, parce qu'en fait, les victoires continueront. On va faire grâce à nos auditeurs de la formule, parce que c'est un truc mathématique hyper compliqué, mais la victoire continuera à rapporter des points, le nul moins et la défaite zéro. Donc ils ont changé une formule mathématique qui corrige effectivement certaines
effets. Qui donne plus d'importance au match officiel et moins en fait à ces matchs amicaux.
Ça vaut 10 fois moins, je crois, qu'un match de Coupe du Monde.
Voilà, 6 je crois, non 10 6 fois moins.
C'est dans les dates FIFA ou pas.
Non, mais ce qui est intéressant effectivement, c'est qu'aujourd'hui, une équipe qui va faire un exploit contre une équipe mieux classée, eh bien va regarder plus de points, va gagner plus de points. Donc il va y avoir des améliorations. Ce qui est assez étonnant, c'est que la FIFA, ce système de comptabilité existe déjà dans d'autres disciplines, notamment aux échecs, paraît-il. Je suis pas joueur d'échecs,
mais effectivement, aux échecs, parce que moi j'étais champion d'échecs, je vous en avais parlé.
Et donc
de mon combat contre Kasparov.
Et ce qui est curieux, c'est que la FIFA n'ait pas adopté ce système de classement plus tôt. Mais bon, voilà, mieux vaut tard que jamais.
Exactement.
C'était une des innovations récentes.
C'est un proverbe africain, ça, mieux vaut tard que jamais.
Je crois que c'est une vieille maxime française.
Vous avez remarqué que la FIFA a changé des directions entre temps.
Oui, absolument.
Allez, on va passer au rendez-vous du week-end. Le retour des championnats européens donc presque partout maintenant, sauf en Allemagne. On jouera donc au cours du week-end l'Espagne et l'Italie, la Liga et la Serie A rejoignent la Première Ligue et la Ligue 1. Demain soir, à Londres, les Blues recevront les Gunners. Chelsea et son nouvel entraîneur, l'Italien Sarri, vainqueur déjà lors du premier match, lors de la première journée, eh bien se retrouveront face à Arsenal dans la ville de Londres. Alors un Arsenal d'Unai Emery désormais, Rémi Nkono. Unai Emery qui a perdu, lui, son premier match d'entrée. Alors, certes, c'était contre les Citizens, mais Unai Emery semble être déjà un peu dans l'œil des supporters, dans l'œil de la presse anglaise aussi, les Gunners, d'une façon générale. Écoutons-le, Unai Emery, justifier les choix de son premier match. Et je crois qu'il s'essaye à l'anglais comme il s'essayait au français.
We want to build one team competitive.
Nous voulons bâtir une équipe compétitive. Nous allons jouer à l'extérieur, mais nous devons garder notre personnalité, notre mentalité. Contre Manchester City, l'équipe a joué avec les mêmes idées, avec le même état d'esprit durant 90 minutes, même lorsque nous perdions. Nous n'avons jamais baissé les bras. Ce fut une bonne chose, malgré la défaite de 0. Je veux nous voir continuer sur cette voie et avec la même intensité, mais avec une meilleure performance sur le plan individuel et collectif. Nous avons fait une bonne préparation et nous donnerons la réponse sur le terrain.
On espère qu'il va aussi faire des progrès en anglais, Unai Emery. Rémi, ce premier match Alors, on a entendu après Pierre-Emerick Aubameyang, hein, qui est là-bas, râler un peu en disant qu'il voulait jouer avec la Lacazette.
Bon, il voulait jouer avec la Lacazette. Je devrais d'abord dire que le match, quand on essaie de regarder le contenu, ça n'a rien à voir avec le catastrophisme d'Arsène Wenger.
C'est marrant parce que la presse anglaise, au contraire, disait, on aurait dit que c'était la même chose que c'était, comme si c'était toujours Arsène Wenger.
Ah non, parce que avec Arsène Wenger, ça quand même fait 6 buts en 3 jours d'écart.
C'est-à-dire il n'y a eu qu'une journée. Alors, ils en ont pris.
Non. C'est-à-dire qu'avec Arsène Wenger, quand ils ont rencontré City, il y a eu un écart, 2 matchs, 3-0, 3-0, et ça se jouait comme des bambins.
Des années.
Voilà. Donc là, nous sommes avec un entraîneur.
C'est un sacré rapport.
Nous sommes avec un entraîneur qui n'a pas passé 10, 20, 25, 30, 50 ans comme Arsène Wenger, qui vient de prendre un effectif. Et bien sûr que, en prenant cet effectif, certes, il a eu un peu de temps pour essayer de faire un petit travail foncier, mais il faut savoir que là où il est actuellement, c'est des joueurs que lui-même, il est aussi en train de découvrir. Il faut quand même se dire que beaucoup d'autres anciens aussi sont partis. Il y a eu un nouveau recruteur, celui de Dortmund, qui est arrivé et qui, maintenant, a remis certains nouveaux joueurs.
Ça vous donne de l'espoir, vous, que ce soit Unai Emery à la tête d'Arsenal?
Beaucoup plus qu'Arsène Wenger. C'est vrai que, vraiment, parce que quand on est quand même la 6e équipe la plus riche du monde, comme était Arsenal, et qu'on ne parvienne pas à se qualifier pour la Ligue des Champions, il ne peut pas avoir pire que ça.
Eh ben, Arsenal est bien avec Rémy Ngono comme avocat désormais. Les Gunners ont vraiment du souci à se faire. Parce que franchement, Unai Emery, qui n'a pas vraiment réussi au Paris Saint-Germain, il faut dire les choses telles qu'elles sont, puisque les objectifs qui lui avaient été atteints, n'ont pas été atteints. Bref, Unai Emery, pour relancer...
Comment ? Dont un titre perdu.
Absolument. Donc,
un seul titre perdu.
Un seul sur deux, heureusement.
Ils n'ont jamais atteint les demi-finales de Ligue des Champions.
Arsène Wenger, zéro titre gagné.
On va voir. On va bien rigoler, parce que là, je vois les différents experts qui s'expriment dans la presse anglaise, notamment d'anciens joueurs d'Arsenal, ils disent qu'il faudra 3 ou 4 mercato à Wenger, à Unai Emery, pour refaire une équipe compétitive. Alors, on va voir comment Kroenke va accepter ça, parce que jusqu'à présent, l'actionnaire américain d'Arsenal était très content de Wenger parce qu'ils obtenaient des résultats.
Il était un peu économe, on va dire.
Voilà, sans dépenser d'argent. Là, déjà, ils ont dépensé 80 millions d'euros sur le mercato de cet été. Rémy Ngono faisait allusion à l'arrivée du recruteur de Dortmund, Sven Mislintat. Sven Mislintat, il était déjà arrivé la saison dernière. Et c'est lui qui, pendant l'hiver, je rappelle pour Rémy Ngono, parce que c'est pas un spécialiste d'Arsenal, c'est juste un pourfendeur des Gunners, qu'il avait fait venir Aubameyang, qu'il avait fait venir Mkhitaryan, qu'il connaissait bien puisqu'il les avait eus à Dortmund. Donc, si vous voulez, le travail de renouvellement des Gunners a déjà commencé. Donc, les circonstances atténuantes que Rémy Ngono trouve à Unai Emery, elle risque vite d'être éculée, il va falloir qu'il en trouve d'autres.
C'est un match, je t'ai dit bien, c'est un match, il vient d'arriver.
Mais Rémy, on essaye de comprendre.
Votre temps de parole est écoulé, monsieur Ngono.
Rémy, on essaye de comprendre pourquoi il est déjà dans l'œil du cyclone.
Xavier Barré me parle de 80 millions d'euros, il oublie que Arsène Wenger, lui, il a recruté en deux saisons, il a recruté 280 millions d'euros.
Mais on ne parle plus de Wenger, c'est pas ça, Rémy. Le sujet, c'est pourquoi Unai Emery est déjà dans l'œil du cyclone. Alejandro.
Mais Rémy dit du bien d'Unai Emery pour dire du mal de Wenger. Moi, je suis d'accord avec lui sur un point, c'est qu'on ne peut pas juger Unai Emery sur un seul match. Et il faut comprendre aussi
Pourquoi les supporters sont déjà
parce que parfois ils sont un peu excités par l'idée de critiquer, etc. Mais il faut comprendre que même dans les rêves les plus fous, Arsenal ne va pas rivaliser avec Manchester City dès cette année. L'objectif d'Arsenal est de se qualifier pour la Ligue des Champions, d'essayer de faire ce qu'a fait Tottenham l'année dernière, c'est-à-dire être un petit peu
dans
au niveau
premiers.
Et essayer de se glisser dans les top 4. Alors que Chelsea arrive avec des ambitions beaucoup plus importantes, même s'ils sont changés aussi d'entraîneur. Donc Arsenal a eu la mauvaise chance de commencer quand même cette première ligue avec City en premier, puis en se déplaçant chez Chelsea en deuxième. C'est quand même pas facile. Mais après, ils auront 8 matchs beaucoup plus accessibles. Je pense que Unai Emery va pouvoir souffler un petit peu. Là, il faut éviter surtout une humiliation face à Chelsea.
Non, mais Hervé, j'ai l'impression que c'est surtout... Déjà, les supporters, en fait, ils ont peut-être été déçus par la nomination d'Emery, je sais pas. Mais justement, c'est plutôt comprendre ça. Parce que, bon, Wenger, c'est une page tournée.
Peut-être que certains... Alors là, je mettrai pas tous les supporters d'Arsenal. Parce que souvent, les supporters sont quand même assez fidèles à leur club en Angleterre. Arsenal, effectivement, il y a une frange des supporters qui s'étaient désolidarisés de Wenger, mais après des années, et de résultats un peu moins brillants qu'à une certaine époque. Non, je pense que ces supporters-là, peut-être, croyaient que du jour au lendemain, puisque Wenger n'est plus à la tête d'Arsenal, d'un seul coup, vous auriez un Arsenal plus flamboyant. Mais non, mais vous avez un Arsenal qui a les joueurs d'Arsenal. Tout est là. C'est-à-dire que depuis des années, ils ont des joueurs, moyens. Attendez, je m'entends, moyens, c'est-à-dire de très bons joueurs, mais pas des joueurs pour rencontrer Manchester City, Manchester United, Chelsea, etc. Aujourd'hui, vous êtes sorti du Big Four. Tottenham a plus sa place dans le Big Four aujourd'hui que l'équipe d'Arsenal. Donc Unai Emery, il va falloir du temps. Il va falloir des renforts, parce que je vois même pas ce que peut faire Unai Emery avec cet effectif-là pour venir concurrencer les gros. Et je parle même pas des deux, des trois. Je dis même être dans les quatre. Être dans les quatre avec l'effectif qu'il a, ça va pas être facile. Donc il va lui falloir du temps, connaître le championnat, le comprendre. Je trouve que à mon avis, c'est une petite erreur aujourd'hui qu'il fait de parler en anglais comme il a voulu le faire en français. Attendez, c'est un énorme effort de sa part, et ça, je dis bravo, hein. Mais simplement, il s'est rendu compte, j'espère qu'il s'est rendu compte qu'à Paris, ça avait été un super handicap. Parce que d'un côté, il parlait aussi en français aux joueurs, les joueurs comprenaient rien. Donc s'il fait la même chose avec les joueurs en Angleterre, en leur parlant anglais, tout le monde se marre, parce que c'est malheureusement les joueurs sont moqueurs aussi. Et si vous n'avez pas les résultats, d'un seul coup, ça devient un running guy, tout le monde dit oh, regarde ça, t'as vu ce qu'il nous a dit. Et c'est ce qui se passait au PSG. Donc il faudrait, à mon avis, il faudra qu'il fasse peut-être un petit peu attention sur sa communication. D'un autre côté, j'attends de voir un peu plus longuement ce qu'il est capable de faire, même si je suis pas hyper optimiste pour venir titiller les gros, je parle, hein, parce que ça restera Arsenal dans 5-6e position.
Il y a les Manchester
lié à son effectif, hein, parce que les 80 millions, ils n'ont pas été dépensés non plus sur des joueurs hors norme.
Bah, en tout cas, Sokratis Papastatopoulos, Bernd Leno, le gardien de Leverkusen, Lucas Torreira, l'Uruguayen, et Matteo Guendouzi de Lorient.
Donc on attend de voir.
En tout cas, les Citizens qui étrennaient donc leur titre finalement sur cette pelouse de l'Emirates, eh bien Manchester qui jouera à domicile ce week-end jouera sans De Bruyne. Kevin De Bruyne, le surdoué, hein, l'international belge, s'est blessé à l'entraînement. Il s'est blessé au genou hier, ligament extérieur du genou droit. Il ne sera pas opéré, mais le voilà absent pour 2 à 3 mois.
Un petit quel mot sur dur, City, hein. Oui, coup dur. Alors, il y a un joueur qui vole en ce moment à City, c'est Bernardo Silva. C'est-à-dire que l'année dernière, il avait été super bien géré de la part de Guardiola. Tout le monde disait, mais tiens, il est pas titulaire, ils l'ont acheté aussi cher. Non, Guardiola, il se pose pas cette question. Il a une vision à long terme des choses. Enfin, à long terme. Dans le football, ils ont un moyen terme. C'est-à-dire qu'il le voit comme un des 15 joueurs qui était susceptible d'être titulaire, ou 16 joueurs, et aujourd'hui, qui est un titulaire indiscutable, et qui fait un très très bon début de saison.
C'est vrai que la blessure de De Bruyne est un vrai souci, mais il a aussi pris Riyad Mahrez.
En plus.
Donc, il y a des solutions alternatives pour que cette équipe de Manchester City reste compétitive, n'en déplaise à Rémy Ngono.
Le match de la Ligue 1.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, j'arrête quand je veux, pas quand on te veut.
Alors la Ligue 1, un peu interloquée par cette affaire Poyet, on va pas y passer trop de temps, mais quand même, il n'a pas voulu se taire, Gustavo Poyet, lorsque...
Pourquoi se taire ?
L'attaché du club, l'attaché de presse lui a dit...
Ah, c'est vrai que Rémi, c'est un truc qu'il ne sait pas, ça. Il est surpris, même qu'on ait pu...
Lui disait de s'arrêter hier, il a déversé un peu toute sa rage hier soir en conférence de presse contre les dirigeants de Bordeaux. Résultat, ce matin, Alejandro, il a été mis à pied, l'ancien international uruguayen. Au bout de 7 mois... c'est déjà vraiment la fin de son travail du côté de Bordeaux ?
Oui, de toute façon, il paraissait difficile pour les dirigeants d'accepter qu'ils tiennent de tels propos, même si moi-même j'étais surpris parce que quand même le transfert de Laborde c'est pas quelque chose qui est sorti de façon abrupte du chapeau. Ça faisait plusieurs jours qu'on en parlait, on savait qu'il allait partir à Montpellier, donc à mon avis c'est le seul qui pouvait être étonné de ça, c'est Poyet, et en plus il venait de se qualifier pour les barrages, donc a priori
il le savait,
je comprends pas pourquoi il a réagi de cette façon. Je pense qu'il voulait peut-être partir.
Alors, ouais. Ça fait quand même quelques mois, ça fait quand même quelques semaines, voilà. Quelques mois, j'allais dire, hein, qu'on sait que c'est très, très, très tendu à Bordeaux.
Début mais c'est toujours saison. Tendu à Bordeaux, non? Parce que.
Oui, mais là, un peu plus, hein, avec Cognette, oui, Sagnol, un type de caractère.
Gourvennec.
Oui, mais Gourvennec, à la rigueur, hein. C'était plutôt calme. C'est feutré, une ambiance
virée,
feutrée chez Gourvennec. Oui, viré, mais viré de manière sympathique, on
non,
va
mais,
dire. Tandis que la Cognette, lui, il est arrivé, et c'est dans le jeu de qui? Il a mis des coups de pied dedans. Le problème, en fait, dans cette histoire bordelaise, c'est que vous avez un club qui appartient à M6, pour l'instant, toujours. Jusqu'à fin septembre, et qui doit appartenir aux Américains. Et Poyet est plus l'homme des Américains. Donc lui, à un moment, il pense qu'il a aussi les coups des franges, il peut dire un peu ce qu'il veut. Malheureusement, là, il a quand même allé...
Tôt.
Ah non, mais là, il est allé un petit peu trop loin. Mais d'un autre côté, moi, je sais que j'avais parlé avec Franck Leboeuf, et qui m'avait dit, Poyet, c'est certainement l'un des joueurs les plus sympas que j'ai connus. Ils avaient joué ensemble à Chelsea. C'est un des types les plus sympas, les plus humains. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'au début, même, apparemment, les joueurs voulaient même pas s'entraîner ce matin, par signe de solidarité envers leur entraîneur. Ce qui veut dire quand même qu'il devra, il doit avoir certainement un certain poids, en tout cas amical, auprès de ses joueurs.
Donc, mise à pied, il va revenir?
Je pense qu'il va revenir chez lui, peut-être chez lui, ou en Espagne, s'il retourne, peut-être, mais pas. Voilà, ce serait la surprise du chef.
Moi, je suis d'accord avec lui. Totalement d'accord, parce que j'entends comment est-ce que tout le monde est en train de le descendre.
Première des choses,
je vais dire que il faut savoir que c'est un Uruguayen et tout un chacun connaît comment est-ce que même le chef d'État uruguayen parle souvent. D'ailleurs, comment est-ce qu'il avait insulté les gens de la FIFA quand on avait suspendu.
Donc aujourd'hui,
nous avons un cas, c'est-à-dire le cas Bordeaux. Bordeaux aujourd'hui, lorsque vous rendez compte de la foultitude de grands joueurs qu'il y a eu au niveau de Bordeaux, qu'est-ce qu'on a acheté après? Plus rien. On se rend donc compte que Bordeaux vient de vendre 40 à 45 millions, Malcolm. 45 millions, qu'est-ce qu'ils font derrière? Rien. Et puis, c'est bien beau de laisser partir Babi, c'est bien Paul Bess, c'est bien de dire que tel autre, la Borde, peut aussi partir, tout le monde peut partir, mais le problème est là. Avec Bordeaux, chaque entraîneur vient, ne parle pas. Bordeaux ne fait que sombrer. Pendant ce temps, le gars, lui, il a vu, dès la première journée, ce n'est pas parce qu'il se qualifie là pour l'Europa League, c'est dès la première journée, il a été battu par 2-0. Il n'a pas d'avant-centre, il demande 2. Et quand il y aura des défaites, on va l'accuser. Donc, à une certaine période, le gars a voulu tout de suite dénoncer parce qu'il sait que la mort va arriver. Il y a un proverbe africain qui dit, on peut cacher la maladie, mais jamais on ne va cacher la mort.
Oh, ça dépend des fois, ça.
Xavier, moi, je vais vous interroger sur Marseille. Marseille qui va aller à Nîmes.
Oui.
Court voyage, voyage de proximité, on va dire. C'est pas vraiment un derby régional, mais quand même, il y a quelques petites animosités entre. Alors bon, les crocodiles, ça fait quelques temps que.
Mais Nîmes, c'est une vraie ville de foot.
Voilà, c'est ce qu'on a toujours dit.
Contrairement à Montpellier, qui est
presque une
ville de foot.
C'est filiale de Marseille.
Par le passé, il faut remonter au-delà de 25 ans, c'est vrai, parce qu'avant, Nîmes n'est plus en Ligue 1 depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'avant, Nîmes était le vrai rival marseillais dans le sud de la France, avec Nice, bien
alors
sûr.
Alors là, ça faisait longtemps qu'ils étaient en Ligue 2, promus, la semaine dernière, ils marquent 4 buts, Marseille pareil. On va avoir un match spectaculaire?
On risque surtout d'avoir beaucoup d'ambiance au stade des Costières. On n'a plus vu de match de Ligue 1 depuis 25 ans, donc ça fait vraiment une éternité. Et comme je vous disais, une vraie ville de foot. Il faut pas oublier que ce stade des Costières avait été construit dans les années 80. Ça a été un des premiers des nouveaux stades construits en France. Et malheureusement, Nîmes a très peu offert de beaux spectacles à ses spectateurs pour venir. Donc là c'est vraiment un renouveau.
Ils sortent d'un résultat incroyable sur cette première journée, c'est ça.
Oui, mais un résultat un peu trompeur, parce que si vous regardez les matchs, quand même...
Ah non, mais trompeur ou pas, n'empêche que vous gagnez 4-3 à l'extérieur à 10 contre 11 sur les 15-20 dernières minutes, vous remontez 2 buts à ce moment-là, c'est un truc, personne n'aurait imaginé ça, de la part des Nîmois.
Ce qui arrive souvent, Hervé, les promus sur la dynamique de la montée.
Absolument, ça.
Donc ils osent tout, voilà, ils ont un peu de réussite, Reims aussi va gagner à Nice, oui. Donc il y a cet enthousiasme, bien sûr qu'ils sont en dessous de l'OM, évidemment, l'OM finaliste de l'Europa League, rappelons-le, mais sur cet enthousiasme, ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent surtout provoquer la passion du public, et derrière, justement, fidéliser ce public pour qu'ils continuent à venir les voir toute l'année contre des équipes qui seront moins intéressantes que l'OM.
En tout cas, au cours du week-end, on aura aussi Real Madrid à Getafe, Rémi, il se lance.
Il n'y a plus Zidane, ça ne m'intéresse pas.
Il n'y a plus Zidane, il n'y a plus Cristiano.
La Lazio joue à Naples et justement, Cristiano, vous allez regarder la Serie A. Maintenant, j'imagine la Juventus qui va à Vérone puisqu'elle jouera contre le Chievo, tous avec un brassard noir, les joueurs de la Serie A. Les clubs de Gênes, d'ailleurs, tant la Sampdoria que le Genoa, ne joueront pas leur rencontre face à la Fiorentina ou le Milan AC. Les matchs ont été reportés. Rémi, il y a un de nos auditeurs qui vous envoyait un petit proverbe africain au sujet de Florentino Pérez, contre qui il a l'air très en colère. Je pense que peut-être que vous aussi. Et il dit « Seul l'idiot met les deux pieds dans l'eau pour voir la profondeur de la rivière », c'est ça, proverbe africain ? Profondeur ou température ? J'ai mal noté.
Mais si c'est vous qui notez mal le proverbe, ne me demandez pas de l'expliquer.
C'est un proverbe africain.
C'est la profondeur,
vous savez,
a priori.
Non, mais vous savez, c'est très grave bien ce parce fait, aujourd'hui, tous les Madrilènes ne peuvent être que fâchés contre Pérez. Lorsque vous vous rendez compte quand même qu'il est revenu en 2013 et qu'il voulait reconstruire une équipe digne de ce nom, mais on se rend compte que finalement, il a pris qui ?
Pérez, bon, il est revenu en 2013.
Non, le dernier mandat. Donc, c'est ça que je te dis.
En 2009, c'est ça.
Oui, 2013, le dernier mandat.
Ligue des Champions, quand même.
Voilà, donc,
2009,
lorsque vous voulez.
C'est le 2009.
Voilà, donc, oui, lorsque 2009. Vous regardez.
C'est le deuxième mandat. Il ne connaît même pas les grandes dates de son club.
C'est le deuxième mandat. Il a repris le deuxième mandat parce qu'il est au quatrième, pour te dire ça. En 2013, donc, il dit ceci. Il dit, bon, écoutez, maintenant, je vais remettre ce qu'on appelle du vrai punch et tout et tout et tout. Et qu'est-ce qu'on voit ? Il a recruté Andor Disco, qu'il a pris à 30 millions d'euros. On se rend compte que les James Rodriguez qu'il a pris en 2014 sont partis et qu'aujourd'hui, le Real se retrouve comme une équipe totalement
voilà.
déglinguée.
Il a mis les deux pieds dans la rivière.
Et tout, qui sont partis. Donc,
c'est lui qui avait fait venir Cristiano.
Et puis, non. Mais il a trouvé son prédécesseur qui avait déjà engagé Cristiano Ronaldo. Il voulait d'ailleurs stopper ce Ronaldo-là. Et la preuve aujourd'hui, c'est que c'est lui qui fait quand même partir Ronaldo sous prétexte qu'il est vieux, mais malheureusement,
il n'y a pas que ça. On en a parlé dans Radio Foot.
Les vieux peuvent continuer toujours à manger les herbes fraîches.
La justice espagnole africain. Aussi.
Oui, il y a plein de choses. Allez, on va continuer dans ce Café des Sports. Avec un saut qui sait dans le football du futur, parce que la Liga innove, la Liga se délocalise. Alors dans un monde où en général c'est les industriels qui se délocalisent, qui vont fabriquer dans des pays lointains des objets avec une main d'œuvre pas chère, et bien là, on croyait que c'était les tournées d'été des clubs qui leur permettaient de se montrer, par exemple en Asie ou aux États-Unis et de grossir un peu leurs revenus. Là, la Liga a eu une idée peut-être ingénieuse. En tout cas, elle jouera une des journées du calendrier, donc une des 38 journées, non pas en territoire européen, mais en territoire américain, et forcément avec le Real ou le Barça, ceci pour les 15 prochaines années. Alors la nouvelle a été annoncée hier, on s'est tous demandé un peu si on avait bien lu, et écoutez l'entraîneur du Betis Séville, Quique Setién, alors lui, il se demande s'il a bien entendu.
J'en
savais rien, et pour être honnête, cette nouvelle m'a pris de court. Je me demande même comment ça a pu nous arriver. Et j'ai du mal à comprendre, parce que je ne sais pas comment nous devrons faire un voyage de 6 heures, voire de 8 heures d'avion, pour vite revenir pour jouer le match du jeudi. Ça m'intrigue, mais bon, maintenant, il faut s'attendre à tout. S'il faut y aller, et qui nous oblige, que faire ? Ce que je demande, c'est comment on emmènera nos 60 000 socios.
Alors Alejandro, il y a une espèce de vent quand même de révolte du côté de l'Espagne pour l'instant. Les supporters, en tout cas l'association des socios, parle d'aberration. Le syndicat des joueurs n'est pas très content non plus. Est-ce que c'est une initiative surprenante, c'est celle du monde de demain ?
Je pense que c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, on se rend compte que les principaux championnats de football sont devenus des produits de consommation planétaire. Ils sont diffusés partout dans le monde. Et du coup, il y a une rivalité pour essayer de tirer les maximums de profits de cette popularité que les clubs espagnols, anglais ou autres ont su conquérir en Asie, en Amérique, etc. Donc ça s'inscrit dans une certaine logique, comme vous parliez tout à l'heure des tournées d'été. Aujourd'hui, c'est ancré dans les habitudes, mais ce n'est pas suffisant. Et donc l'idée, c'est d'aller jouer à l'extérieur. Alors si ça devient une surenchère qui est imitée par d'autres. Et si on se retrouve à jouer une semaine en Asie, une semaine aux États-Unis, etc., ce sera n'importe quoi. Pour l'instant, la Liga essaye de prendre un petit peu de cours la Première Ligue, parce qu'il y a une rivalité surtout entre ces deux championnats, pour essayer de gagner des positions dans des zones qui sont plutôt sous l'influence dominante de la Première Ligue aujourd'hui.
Xavier, oui, il faut rappeler une chose, c'est qu'il y avait déjà eu ce genre de polémique il y a une dizaine d'années maintenant, quand la Première Ligue avait envisagé de délocaliser toute une journée du championnat. Et donc, les clubs étaient bien sûr favorables parce que ça permettait de gagner encore plus d'argent. Alors, il y en a qui seraient allés jouer en Asie, d'autres au Moyen-Orient, d'autres aux États-Unis. Ils auraient fait ça à une date où ça permettait justement de se déplacer, de revenir.
Non,
mais donc, c'est tombé à l'eau pour deux raisons. Une raison réglementaire, c'est-à-dire que normalement, les matchs d'un championnat doivent avoir lieu sur le territoire national. Et puis, la deuxième raison, en Angleterre, c'est que les supporters étaient fortement opposés à ça parce que
là,
vous l'avez évoqué, Annie, effectivement, il y a le problème des abonnements. Et quand un supporter est abonné pour 19 matchs à domicile contre une autre équipe, il n'a pas envie d'en perdre un. Mais alors, on peut imaginer maintenant des arrangements, des compensations, c'est-à-dire que notamment, je ne sais pas, si je prends l'exemple de Getafe qui reçoit le Barça. Si le Getafe-Barça a lieu à Miami, je pense que Getafe sera très content d'aller se montrer aux États-Unis et de récupérer une compensation. Et ses supporters, qui ne sont pas extrêmement nombreux, même s'il y en a...
60 000 pour le Betis, c'est déjà énorme.
Non, le Betis, non, mais le Betis, c'est pas possible. Mais des clubs de second niveau espagnol, c'est probablement eux qui accepteraient d'aller jouer, d'aller recevoir le Real ou le Barça aux États-Unis. Maintenant, il faut voir si au niveau de l'UEFA et de la FIFA, c'est autorisé. Ça, c'est pas, à mon avis, c'est pas sûr.
Rémi,
c'est
à quand le tonnerre, c'est comment le derby du Cameroun?
Le derby, c'est quand Bambutos va remonter aussi. Bambutos de Mbouda. Peut-être vous ne connaissez pas ça.
Si, tu rigoles.
Ah voilà, c'est une équipe où on change les entraîneurs tous les jours et on change aussi les stades, à peu près comme on veut dire en Espagne. Donc moi, je trouve déjà ça comme une aberration parce que déjà, en début de saison, comme il a parlé des abonnements, on n'avertit pas les sociaux. Ils vont faire quelque chose derrière.
Ils sont déjà abonnés et il y a cette décision.
En droit, on appelle ça yadol, il y a tromperie. C'est-à-dire que sur la marchandise. Parce que quelqu'un croit prendre ceci et après tu viens lui dire que en réalité tu n'auras pas ça parce que.
Mais ils vont leur donner un.
Tu sais, la carte de Ligue des Champions. Il vient au Cameroun l'année prochaine. Deuxième, 24 équipes alors qu'il l'avait acheté.
Deuxième des choses. Je crois quand même que lorsque vous essayez de dire qu'ils veulent prendre à contre-pied le championnat anglais, c'est bien au contraire ça. Parce que si vous commencez à le faire comme justement ils sont en train de vouloir le faire,
ça va faire école.
Ah oui, je dis bien justement que tout le monde va délocaliser. Et au-delà de ça, nous aussi, on va revendiquer. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas en Afrique? Pourquoi est-ce qu'ils vont, par exemple, aux États-Unis alors que peut-être le championnat même
de
la Liga
plus près au Maroc
est beaucoup plus suivi en Afrique qu'aux États-Unis. Donc moi, je crois que aujourd'hui,
il y a l'argent, Rémi.
Et l'argent. Je vais vous parler de l'argent. Concernant l'argent, ce sont les chaînes qui prennent les matchs, qui donnent de l'argent. C'est-à-dire que quand vous regardez...
Oui, mais ça, c'est le cas de l'Angleterre, justement,
oui,
c'est pour ça. Oui,
Betesport ou bien Sky, vous vous rendez compte qu'ils prennent, par exemple, 2 milliards et 300 millions par saison.
Non, mais
Rémi, donnent.
Justement, l'Angleterre a calculé que les matchs actuellement pourraient avoir lieu sans aucun supporter dans les stades et que ça resterait rentable, ce qui est fou.
Ah, voilà, mais sauf que quand vous voyagez maintenant, je ne vois pas comment est-ce que ce que ça va rapporter au niveau du stade par rapport à tout ce qu'on m'a dit qu'il y aura
des
maillots. Et tout. Bon,
ils vont vendre des maillots. Moi,
j'ai pas de philosophie sur ce thème-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certains clubs qui ont dépassé le cadre de leur championnat. Ça, faut quand même s'en rendre compte.
Pourquoi
la Super Coupe d'Espagne a eu lieu au Maroc?
Oui.
Pourquoi?
Et la Super Coupe de France?
Oui, effectivement. Alors nous, c'est pour récupérer un peu d'argent, mais ils savent qu'au Maroc, par exemple, le championnat espagnol, c'est absolument invraisemblable. C'est-à-dire que le championnat espagnol est suivi, son voisin, évidemment. Aujourd'hui, vous êtes Barcelone. Vous pouvez aller à Miami, on parlait de Miami, vous pouvez aller à Los Angeles, vous avez peut-être tous les gens d'origine mexicaine qui adorent le football et qui aimeraient aller voir ces équipes-là. C'est que vous êtes passé dans un autre cadre. Et je pense qu'effectivement, c'est pas idiot non plus de la part de la Ligue espagnole se dire, il faut aussi qu'on capitalise là-dessus. Les Anglais l'ont fait assez souvent, il va falloir qu'on trouve quelque chose. Alors je sais pas s'il y a vraiment une bonne formule, mais je pense qu'on va tendre vers ça, on tendra vers, de temps en temps, un match qui sera délocalisé pour permettre à Manchester United ou même au Paris Saint-Germain.
Rappelons-nous le match à 13h. 15 ans. 15 ans.
Oui, oui, c'est ça. Ah oui, c'est logique. Ah oui, il faut le faire sur plusieurs années.
Non, mais ils sont malins.
Imaginons le match Nice-Paris Saint-Germain l'année dernière en France. Jamais personne n'aurait imaginé il y a 3-4 ans, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, dire on va faire un match à 13h pour le marché chinois. Ce serait même pas venu à l'esprit de quelqu'un.
Oui, alors là, aujourd'hui, les supporters sont un peu partout. On l'a vu à la Coupe du Monde.
C'est pour ça que ça dépasse.
C'était une erreur parce que les Italiens, les Espagnols le faisaient déjà un match à 12h30. Donc là-dessus, la Ligue française avait du retard.
Et ben voilà.
Donc c'est peut-être le futur du football, certainement.
Sans doute. Hein. La question était posée et on a tenté d'y répondre. Allez, allons vers nos cartons.
Carton jaune.
Un carton là. Qui sort un carton jaune.
Oulala, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Notre session carton aujourd'hui et nous donnons aussi la parole à nos stagiaires du service des sports. C'est leur dernier jour, alors c'est normal, c'est un peu le baptême du feu, juste avant qu'ils s'en aillent. Samy Mouafik, bonjour.
Bonjour.
Dit Sofiane Boufal, on va me le dire, il ressemble comme deux gouttes.
Sofiane Boufal avec le maillot du Nigeria.
Ah ouais, exact.
Ah, quand même, il a pensé qu'on était sur RFI et que c'était important. Samy, quel est votre carton? À qui donneriez-vous un carton et de quelle couleur déjà?
Alors moi, j'ai décidé de donner un carton vert. Donc c'est pas très original parce que c'est destiné à un champion du monde. Mais je voulais mettre en avant Thomas Lemar qui a joué son premier match avec l'Atlético Madrid cette semaine en Supercoupe de l'UEFA. J'ai trouvé personnellement qu'il avait fait une prestation intéressante, ce qui est jamais évident pour un premier match. Thomas Lemar, c'est un joueur très jeune, il va avoir 23 ans en novembre. On le sait, il a un énorme potentiel, il sort d'une saison un peu en demi-teinte avec l'AS Monaco.
Il avait été beaucoup blessé.
Voilà, beaucoup de blessures, il a manqué pas mal de matchs et c'est vrai que voilà, on sent vraiment qu'il peut s'épanouir avec l'Atlético Madrid et peut-être passer un cap justement qui pourrait lui permettre de devenir un titulaire incontestable en équipe de France. Donc ça laissait vraiment entrevoir de belles promesses pour la suite.
Merci, Samy. Hervé.
Ah bah moi je vais rester dans le vert. Vous connaissez un peu de bonheur quand même en cet été. Moi c'est plutôt un retour qui me fait plaisir, je peux vous dire. C'est de revoir Stéphane Bia dans le championnat de France. C'est-à-dire qu'il vient de signer à Toulouse. C'est un joueur qui a vraiment marqué son passage à Marseille. Qui sait à peu près tout faire sur un terrain. Qui est pas toujours le plus facile à gérer. Et d'ailleurs même en équipe nationale. En équipe nationale il a été capitaine. Il a été sorti. Il n'était pas de la dernière victoire à la CAN. J'espère que son retour en France va lui permettre de retrouver justement la sélection nationale avec 2019 avec l'arrivée de Seedorf. Et puis moi c'est un mec même sur le plan humain que j'apprécie et ça me fait vraiment plaisir de le revoir et je pense que Toulouse a fait un très très bon choix. Maintenant il faut voir dans quel état physique il est évidemment après son passage en Chine, mais vraiment voilà, mon carton vert c'est de revoir Stéphane Bia en Ligue 1.
Alors autre stagiaire, Louis Farc, bonjour.
Bonjour.
Alors Louis, à qui attribuez-vous un carton et surtout de quelle couleur?
Alors moi, ce sera un avertissement.
Ah, alors c'est pas, on est plus vert.
C'est ça,
pour Romelu Lukaku. Ouais.
Allez, gentiment.
Il a dit qu'il comptait arrêter sa carrière internationale après l'Euro 2020. J'ai du mal à comprendre quel était son but en disant ça, surtout maintenant. Parce que la Belgique vient de réaliser le meilleur parcours de son histoire en Coupe du Monde. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, à seulement 25 ans. Donc on le voit mal, dans 2 ans, refuser d'autres défis en équipe nationale. Je peux comprendre qu'il était frustré par le passé des supporters qui ont été assez durs avec lui, mais ça arrive souvent pour les attaquants et là on peut douter de la crédibilité de sa déclaration.
Bon, mais alors on attendra la Belgique.
Merci
en 2020, n'est-ce pas?
Alors après ce Boufal, nous avions Sané quand
même. Deux beaux sosies. Xavier, votre carton.
Je vais donner jaune à une décision que je comprends pas bien. Il y a le carton rouge, je le laisse pour ceux qui ont pas su entretenir le pont à Gênes et cette catastrophe qui a provoqué 39 morts. Et derrière, la Ligue italienne a décidé de reporter le match de la Sampdoria contre la Fiorentina, alors que je pense que ça aurait pu être un beau théâtre pour un hommage à toutes ces victimes, justement, que de jouer et de leur rendre hommage avec une minute de silence et les applaudissements comme le font les Italiens. J'avoue que je comprends pas bien cette décision, c'est pour ça que je mets juste un carton jaune. Mais
demande du club, non?
C'était une demande du club. Derrière Milan, le Genoa, lui aussi qui joue à Milan, a son match reporté, c'est quand même très très bizarre.
Allez, Rémi.
Shigen Sakobo de ma page Facebook Le Mingon officiel donne carton rouge au dirigeant du football marocain qui demande la délocalisation du match qui va opposer l'AS Club Vita au Raja Casablanca pour le motif qu'il y aurait Ebola à Kinshasa. Décidément, les Marocains, tout le temps, ils veulent être avec les Africains. Il y a un proverbe africain qui dit que quand on veut jouer avec les chiens, on supporte les puces.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Bon, pas de carton pour nous à les rendre, c'est pas grave, on donnera la semaine prochaine. Ça, c'est pas grave. Merci Richard Rifono d'avoir été aux commandes de l'émission toute la semaine. Merci aussi à Pierre Guérin qui m'a aidé à préparer l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup messieurs.
Oh, un plaisir.
Merci les stagiaires, à très bientôt.